aujourd'hui à Washington.
Raissa Girondin avec vous en direct de Washington pour Le Monde Aujourd'hui, édition de 19h30 en temps universel, la même heure à Dakar, Conakry, Abidjan. Bonsoir, voici les titres. En République démocratique du Congo, Martin Fayulu conteste toujours les résultats. Il devait s'exprimer lors d'une réunion publique à Kinshasa, elle n'a pas eu lieu. Au Burkina Faso, Christophe Dabiré est nommé nouveau premier ministre du pays. Le Mali et l'ONU toujours sous le choc après la mort de 10 casques bleus tchadiens dans notre dossier du jour.
Par surprise, ils ont attaqué les 5 diasporas. Et en même temps, ils se sont attaqués au camp. Ils étaient armés, lourdement armés, pour faire les 10 morts.
Ici, aux États-Unis, la fermeture partielle du gouvernement en est à son 31e jour. Le leader républicain du Sénat prépare un vote. Dans la Minute Écho, la Corée du Sud débloque 2,7 milliards de francs CFA pour les agropoles togolaises et la composition des groupes pour la phase de poule de la Coupe CAF dans la page sport. Mais tout d'abord, le journal. Félix Tshisekedi est officiellement le 5e président de la République démocratique du Congo. Sa prestation de serment qui devait avoir lieu mardi est reportée ce jeudi 24 janvier selon la présidence congolaise. Martin Fayulu, qui s'est autoproclamé président de la République, conteste toujours les résultats. Le candidat malheureux à la présidentielle devait s'adresser ce lundi à ses militants sur les actions à mener contre le pouvoir de Kinshasa, mais une forte présence policière sur place a empêcher la tenue de ce rassemblement. Des détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Depuis 5 heures du matin, le siège de notre parti était bouclé. Il n'y avait pas d'accès. Il y a même eu des perquisitions, a dans un premier temps alerté Jean-Jacques Mamba, le porte-parole du MLC parti de Jean-Pierre Bemba. Et Madame Eve Azaïba, la secrétaire générale du même parti et porte-parole de Martin Fayulu d'ajouter « Nous avons prévu une rencontre avec les militants de la Mouka, mais la police y a cassé notre podium et emporté les baffles. » C'est justement au siège du mouvement de libération du Congo que Martin Fayulu devait s'adresser à ses militants et sympathisants après s'être autoproclamé président de la République. Le meeting n'a finalement pas eu lieu, Fayulu n'ayant pu arriver sur place. Le numéro 1 de la police ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, a dit à la presse qu'il n'était pas opposé à un meeting de Fayulu, je cite, « tant qu'il le faisait à l'intérieur du siège du MLC et non sur une place publique pour ne pas générer des troubles à l'ordre public ». Fin de citation. Martin Fayulu, joint par Top Congo FM, a lui dénoncé la barbarie, la brutalité des agents de l'ordre contre ces manifestants. Kinshasa, Thierry Kambouli de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Et par ailleurs, la France prend note de la victoire de Félix Tshisekedi après avoir estimé la semaine passée que l'opposant Martin Fayulu en était a priori le vainqueur. Elle sera représentée à la cérémonie d'investiture de ce jeudi par son ambassadeur en République démocratique du Congo. Au Mali, un comité d'experts de 11 membres a été mis en place pour la révision constitutionnelle. Leur mission, faire un travail technique d'avant-projet de constitution en impliquant tous les Maliens. Les 11 experts ont reçu leur lettre de mission du Premier ministre Kassim Traoré.
Pour éviter des contestations ou d'autres regroupements comme Ante Abana, non à la révision constitutionnelle, le président Ibeka a changé les fusils d'épaule. Il veut une révision constitutionnelle consensuelle en donnant la parole à toutes les couches sociales du Mali. C'est pour faciliter ce travail qu'un comité d'experts de 11 personnes, dont des femmes, vient de voir le jour. Makamoussa Sissoko, constitutionnaliste, président du comité d'experts pour la révision constitutionnelle au Mali.
Le ministre a sur le président de la République a mis en place une commission chargée de réfléchir à la relecture de la Constitution. Donc c'est dans ce cadre qu'il nous a reçu pour nous donner la lettre de mission et nous donner les instructions nécessaires pour mener à bien ce travail. Donc tout le groupe a été reçu par lui.
Makamoussa et son équipe ont carte blanche pour faire des consultations, des rencontres avec tous les Maliens de façon inclusive pour aboutir à un texte consensuel. C'est pourquoi ils disent que leur porte est grandement ouverte pour recevoir des critiques et des suggestions venant de tous les Maliens. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le Burkina a un nouveau Premier ministre. Christophe Dabiré a été nommé ce lundi en remplacement de Paul Kabatieba qui a démissionné avec son cabinet vendredi. Monsieur Dabiré, ancien ministre de Blaise Compaoré, était jusque-là commissaire à l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Bagassi Koura.
Christophe Dabiré est un économiste expérimenté, plusieurs fois ministre sous Blaise Compaoré. Monsieur Dabiré a dirigé le département de la santé de 1992 à 1997, puis celui de l'enseignement secondaire, supérieur et de la recherche scientifique de 1997 à 2002. Il a également été député du parti de Compaoré. Il avait ensuite été promu commissaire chargé du commerce de l'Union économique et monétaire ouest-africaine jusqu'en 2017. Il succède à Paul Kabatieba, dont le gouvernement a démissionné vendredi. Le nouveau Premier ministre devra faire face à des défis majeurs, notamment la question sécuritaire. Ces dernières années, les attaques armées sont devenues quasi quotidiennes dans le pays. Et depuis l'élection de Rocco Kabore en 2015, les attaques terroristes qui ont touché à plusieurs reprises la capitale Ouagadougou se sont aussi répandues dans plusieurs régions du pays, faisant plus de 300 morts.
Au Zimbabwe, la justice a jugé illégale la décision du gouvernement de bloquer l'accès à Internet la semaine dernière lors des manifestations provoquées par la hausse des prix du carburant. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Il est évident que le ministre de la Sécurité de l'État n'avait pas l'autorité pour prendre cette directive, a déclaré le juge Owen Tagu. David Halumana, représentant l'Organisation des avocats du Zimbabwe pour les droits de l'homme, a ajouté que seul le chef de l'État a compétence pour prendre une telle décision. L'ordre de bloquer l'accès à Internet est annulé, ce qui signifie que les opérateurs ont ordre avec effet immédiat de donner un accès illimité à Internet à tous leurs abonnés, a précisé M. Halumana. Le Zimbabwe est paralysé par une grève générale et des manifestations contre le doublement des prix à la pompe. Plusieurs opposants ont été arrêtés, de même que Jaffei Moyo, secrétaire général du Congrès zimbabwéen des syndicats, interpellé à l'aéroport international Robert Mugabe, d'après Kumbirai Mufanda, porte-parole de l'ONG Avocat du Zimbabwe pour les droits de l'homme. Le pays fait face à des pénuries de denrées alimentaires et de médicaments. Selon l'Institut Global Petrol Prices, le Zimbabwe est le pays où le carburant est le plus cher au monde, 3,31 $ le litre d'essence et 3,11 $ pour le diesel.
En Côte d'Ivoire, début des pourparlers pour la réforme de la commission électorale indépendante à un an des élections générales. Sous la conduite du Premier ministre Amadou Koulibaly, 17 partis politiques, dont le parti au pouvoir et les deux principaux partis d'opposition, le PDCI et le FPI, ont mené un premier échange de vues. Ces derniers réclament une réforme de la CEI qu'ils jugent déséquilibrée en faveur du parti au pouvoir, le Rassemblement des Républicains du président Alassane Ouattara. Au Nigeria, 4 soldats ont été tués au cours du week-end dans une série d'attaques de Boko Haram dans le nord-est du pays, de sources militaires, alors que l'armée se félicitait d'avoir repoussé les djihadistes. Par ailleurs, le gouvernement nigérian a mis en garde contre l'exacerbation de conflits aux quatre coins du pays, un mois avant les élections présidentielles et législatives de février. Il a accusé directement l'opposition de fomenter les violences.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et alors que la fermeture partielle du gouvernement américain en est à son 31e jour, le leader républicain du Sénat prépare un vote sur une proposition que le président Donald Trump considère comme un compromis. Nani Talani.
Le plan du président américain offrirait une protection de 3 ans contre l'expulsion à des centaines de milliers d'immigrés venus illégalement dans le pays quand ils étaient enfants. Il offrirait aussi des extensions du statut de protégé à des personnes ayant fui leur pays en raison de violences ou de catastrophes naturelles. En retour, Trump veut obtenir 5,7 milliards de dollars pour financer son mur à la frontière avec le Mexique. Pour les démocrates, ce mur est une solution de sécurité inefficace et coûteuse. Ils désirent que Trump et les républicains acceptent de rouvrir le gouvernement avant d'engager des discussions sur la sécurité frontalière. Le leader de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, envisage de soumettre la proposition de Trump à un vote à sa chambre dans les prochains jours. Mais comme une législation majeure requiert presque toujours une majorité de 60 voix et que les républicains détiennent seulement une majorité de 53 voix au Sénat, il n'est pas certain si Trump pourra convaincre au moins 7 démocrates de voter pour sa proposition. Environ 800 000 fonctionnaires travaillent toujours sans salaire ou sont au chômage technique.
Et les États-Unis marquent ce lundi la journée Martin Luther King. Ici, à Washington, le président Donald Trump et le vice-président Mike Pence ont déposé une gerbe de fleurs au pied du monument dédié au leader des droits civiques assassiné il y a 51 ans. Sa fille, pasteur Bernice King, a dirigé un service religieux en l'église baptiste Ebenezer d'Atlanta en sa mémoire. Elle a déploré l'état de crise à Washington. De nombreux Américains ont pris part à des activités communautaires ce lundi en l'honneur de Martin Luther King. La première ministre britannique Theresa May s'est engagée lundi à retourner à Bruxelles pour évoquer la question de la frontière entre les deux Irlandes après le Brexit. Moins d'une semaine après le rejet massif de l'accord sur le Brexit, elle a présenté son plan B pour mener à bien cette sortie. Prochain vote fixé au 29 janvier par les députés britanniques. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique, on en parle avec Nanit Talani.
Le Soudan du Sud vient juste de commencer à pomper le pétrole depuis endommagé par la guerre civile qui a éclaté en 2013. Il espère ainsi augmenter sa production pétrolière d'ici la fin de l'année. La production actuelle est de 160 000 barils par jour. La réouverture des puits ce lundi la fera passer à 170 000 barils par jour à la fin de 2019. Le Togo bénéficie d'une aide de la Corée du Sud d'une valeur de 2,7 milliards de francs CFA pour appuyer ses projets de transformation agroalimentaire couvrant la période 2019-2030. En dehors de ces fonds, la Corée du Sud promet d'apporter son expertise pour le développement du dit programme. Il démarrera à partir de l'agropole de Kara, ville située à près de 420 km au nord de Lomé, selon la Tribune. Pour finir, le gouvernement égyptien annonce la suspension de la pêche en mer Rouge entre février et septembre prochain. D'après l'autorité de développement des ressources halieutiques, cette décision vise à accroître la production locale et à atteindre l'équilibre biologique. La suspension ne devrait pas affecter les prix sur les marchés égyptiens, dans la mesure où les prises en mer Rouge ne fournissent que 3% de la production nationale de poissons. L'Égypte produit environ 1,5 million de tonnes de poissons par an. Son industrie aquacole est la 10e à l'échelle mondiale, rapporte Ecofin.
Et c'est la musique d'ambiance qui annonce le score. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Aïssa, bonsoir à tous.
On connaît la composition des groupes pour la phase de poule de la Coupe CAF.
Oui, la CAF a procédé au tirage au sort et toutes les quatre poules promettent des rencontres alléchantes. Le groupe A ressemble à un mini-championnat du Maroc avec les trois équipes du Royaume ensemble. Hassania d'Agadir, Renaissance Berkane et le tenant du titre, le Raja Casablanca, aux côtés de l'AS Otoho du Congo. Les clubs algériens de l'Étoile du Sahel et le CS Sfaxien se retrouvent aussi dans le groupe B avec Salitas du Burkina Faso et les Nigériens de Nungu. On aura droit à un autre derby dans le groupe C avec les deux clubs zambiens de Zesco et de Nkana. Asante Kotoko et Hilal Ondurman devront jouer les troubles faites. Enfin, Gor Mahia, USND, Petro Atletico et le Zamalek composent le groupe D. Les premiers matchs débuteront le week-end du 1er février.
Bonaventure Kalou voit d'un bon œil le décalage des prochaines CAN Yacouba.
Oui, l'ancien attaquant international ivoirien estime qu'il sera plus facile à son pays d'organiser l'édition 2023. C'est vrai que nous sommes ivoiriens et la fibre patriotique veut qu'on soutienne notre pays, mais on est aussi lucide par rapport au fait que rien, presque rien n'a été fait, eu égard à l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations, a déclaré Bonaventure Kalou. Il a ajouté que le glissement de date n'est pas une si mauvaise nouvelle. Ce sont deux années supplémentaires pour la construction des installations devant accueillir la CAN, a fait remarquer l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, désormais maire de la commune de Vavoie dans le centre-ouest.
Mercato hivernal, accord entre Sassuolo et Barcelone pour le prêt de Boateng.
L'attaquant ghanéen est sur le point d'être prêté au FC Barcelone par le club italien de Sassuolo, d'après la presse espagnole. Selon le quotidien catalan Sport, les leaders de la Ligue ont obtenu un prêt jusqu'à la fin de la saison assorti d'une option d'achat. Et le journal madrilène AS ajoute que cette option d'achat s'élèverait à 8 millions d'euros. Ancien joueur de Tottenham, de l'AC Milan et de Schalke 04, Kevin Prince Boateng connaît le championnat d'Espagne puisqu'il a joué une saison sous les couleurs de Las Palmas en 2016-2017.
Enfin, mondial handball 2019, la Tunisie et l'Égypte loin des demi.
Oui, qualifiés pour le second tour, la Tunisie et l'Égypte ne devraient pas voir les demi-finales. Pour leur entrée dans le tour principal, les deux équipes ont perdu leur premier match. Les Aigles de Carthage se sont inclinés 23-35 devant la Suède, avant de perdre face à la Hongrie 21-26. De son côté, l'Égypte a été défaite 28-32 par l'Islande et disputera son second match face au Danemark. Un troisième match attend les deux équipes africaines mercredi et ce sera une confrontation entre elles.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Raissa Girondin avec vous pour vous présenter les dossiers du jour. Retour sur la mort de 10 casques bleus tchadiens au Mali. C'est l'attaque la plus meurtrière de djihadistes contre l'ONU dans ce pays, revendiquée par ACMI, le groupe djihadiste Al-Qaïda au Maghreb islamique. Pour l'analyste Noum Togo, les djihadistes veulent montrer que la question du Nord n'est pas réglée.
Ils veulent attirer l'attention de la communauté nationale et internationale pour dire que le problème des femmes ne doit pas seulement être la priorité et que il ne faut pas que les Maliens et les Maliennes pensent que le Nord, le problème est définitivement réglé. Le Tchad effectivement est considéré comme le maillon fort dans ce combat. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est le Tchad seulement qui était à Agdelok. Mais en réfléchissant sur l'attaque, la manière... On a senti qu'ils étaient mieux armés, mieux équipés. Par surprise, ils ont attaqué les 5 yachts et en même temps, ils se sont attaqués au camp. Ils étaient lourdement armés pour faire les 10 morts. Donc ça attire c'est une vision à ne pas négliger pour dire tout simplement que jusqu'à présent, que ACMI peut faire mal au nord du Mali et il ne faut pas négliger, il faut continuer à surveiller.
Alors, on a vu récemment Barkhane, les forces du G5 Sahel, mener quand même quelques opérations et on avait cru que l'ennemi avait été affaibli. Apparemment, ce n'est pas le cas.
Ils veulent montrer tout simplement à l'ensemble de la communauté internationale qu'ils existent et qu'ils sont puissants. Jusqu'à présent, ils peuvent faire mal et ils peuvent taper un peu partout.
Le G5 avait raison de déplacer son siège à Bamako alors?
Raison ou pas raison, l'essentiel, leur mission c'est de se sécuriser parce que je ne suis pas tellement pour le principe qu'ils se déplacent à Bamako parce que pour moi, donc à Mopti, ils étaient très, très proches du combat, alors ils pouvaient prendre beaucoup de dispositions pour mouvoir un peu et gérer la situation de la crise à partir de ces barrières.
Et jusqu'à présent, on a du mal à voir les actions concrètes du G5 sur le terrain.
Oui, donc nous savons aujourd'hui, il n'y a pas tellement de volonté politique parce que nous avons demandé de mutualiser depuis des années l'ensemble de nos efforts parce que le G5 en tant que structure seul ne peut pas faire le travail parce qu'en termes d'équipement, en termes de communication, en termes de renseignement, en termes d'hommes sur le plan, mouvement, il est difficile jusqu'à présent de mettre la machine en marche. Il est aujourd'hui important qu'on se base aussi sur nos forces. En termes de la troisième dimension, pour moi aujourd'hui, il faut surtout l'aviation pour essayer de faire le travail en tout moment, intervenir vite et puis pour faire des ratissages. Mais aujourd'hui, si on n'arrive pas à faire fonctionner la troisième dimension qui est l'armée de l'air, alors ça sera très difficile de mener ce combat-là parce qu'aujourd'hui, l'ennemi a une autre stratégie, c'est de se... ils ne le font plus par groupe, mais ils le font deux ou trois personnes pour faire mal et ils savent donc comment gérer cette situation sur le terrain.
Noum Togo a été joint à Bamako par Bagassi Koura.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a effectué une visite éclair au Tchad dimanche, une visite historique qui lui a permis de discuter avec le président tchadien Idriss Déby Itno sur des questions bilatérales et régionales liées au renforcement de la coopération et le rétablissement de relations diplomatiques entre les deux pays. Le point avec André Komadjingar, notre correspondant à N'Djamena.
C'est pour la première fois après 47 ans de rupture de relations diplomatiques entre la République du Tchad et l'État d'Israël qu'un haut responsable israélien a foulé le sol tchadien.
Cette visite ne sera pas sans conséquence sur les relations diplomatiques avec les autres États avec qui nous avons une longue tradition de coopération.
Max Kamkoui, président de l'Union des démocrates pour le développement et le progrès, un parti politique de l'opposition.
Je pense que la Ligue arabe ne sera pas muette là-dessus. Nous allons peut-être assister à des tensions diplomatiques simultanément et de façon graduelle et c'est pas bon pour le Tchad.
Conséquence qui, selon lui, découlera de la crise entre Israël et Palestine qui divise le monde. Une visite qui, toutefois, a permis aux deux hommes d'État de discuter de la situation sécuritaire dans le Sahel et l'instabilité politique des pays limitrophes du Tchad. À cet effet, le président Déby sollicite l'appui logistique de l'État d'Israël dans la lutte contre les djihadistes dans le Sahel.
Malgré les énormes sacrifices consentis par les pays membres du bassin du lac Tchad, ce groupe terroriste, preuve d'une forte résilience, multiplie ces derniers temps ses attaques contre des civils militaires dans certains pays voisins. De plus, il se renforce en regagnant du terrain et en récupérant les matériels des militaires majeurs sur le terrain.
Répondant à la demande du président tchadien, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que le Tchad est un allié important dans la lutte contre le terrorisme qu'il faut soutenir.
The future of Africa depends on the future of the Sahel.
Le futur de l'Afrique dépend du futur du Sahel. Ce qui se passe ici influence tout ce qui passe au monde. Donc nous avons discuté comment élargir notre coopération, surtout dans le domaine de sécurité. Nous croyons dans le futur du Tchad et le futur de l'Afrique.
And the future of Africa.
Pour le président de l'UTP, Max Kamkwei, le Tchad ne peut pas, avec ses maigres ressources en termes de moyens militaires et ressources humaines, être continuellement gendarme de l'Afrique.
On ne peut pas nous encourager dans cette dynamique étant un pays très pauvre où ses populations vivent à peine. Nous dénonçons et nous ne comprenons pas pourquoi on doit nous encourager, nous, à être un peuple guerrier pour protéger les autres en perdant hommes, armes et munitions pendant que les autres puissent dormir tranquilles.
Le président de l'Union sacrée pour la République, François Ndiékombé, confirme que la stabilité dans le Sahel dépend bien évidemment du Tchad.
Moi, je crois que Benjamin Netanyahu a parfaitement raison. À partir du Tchad, vous contrôlez en même temps le Moyen-Orient, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. Vous êtes en liaison avec l'Afrique de l'Est. Et donc, le Tchad occupe une position centrale. C'est quelque chose qu'on ne peut pas nier.
André Kodmadingar Ndjamena, VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et poursuivons avec les conditions de vie dans les prisons africaines. Le président du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, invite les dirigeants du continent à plus d'actions en faveur des détenus. Peter Maurer vient d'effectuer une mission sous-régionale, incluant une escale à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Précision de notre correspondant sur place, Georges Ibrahim Tunkara.
C'est un tableau très sombre des prisons africaines que le président du CICR a dressé lors de sa visite à la MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, la principale prison des Côtes d'Ivoire. Construite en 1980 pour accueillir 1500 détenus, la MACA en compte aujourd'hui plus de 5000. Et comme cette maison de détention, la plupart des prisons africaines, selon le CICR, sont confrontées à une surpopulation d'environ 200%. Une situation qui a d'énormes conséquences sur les détenus. Christian Cardon, chef de la délégation régionale d'Abidjan du CICR.
Pas suffisamment de nourriture pour nourrir l'ensemble des détenus présents. Un problème au niveau de l'hygiène, de l'accès à l'eau. Les détenus doivent dormir à tour de rôle, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas assez d'espace dans une cellule pour que tous les détenus puissent être allongés correctement. Donc ils doivent se relayer pour dormir. Des maladies comme la tuberculose, le beriberi, se propagent très 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 rapidement.
Pour le CICR, les gouvernants doivent agir. Christian Cardon.
Toutes les autorités doivent prendre la question des prisons beaucoup plus au sérieux et remettre la question des prisons à l'agenda des priorités. Il faut s'assurer qu'au sein d'un gouvernement, qu'on soit en Côte d'Ivoire, au Mali ou au Sénégal, on puisse prévoir des budgets nécessaires permettant de nourrir tous les détenus de la prison. On ne peut plus faire face à des situations où, encore une fois, des détenus doivent dormir à tour de rôle ou des détenus, pire encore, sont amenés à mourir de faim.
Plusieurs organisations ivoiriennes des droits de l'homme, comme le MIDH, mènent aussi le combat en faveur du respect des droits des détenus. Pour Doumbia Yakouba, président du MIDH, le mouvement ivoirien des droits de l'homme, en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, les citoyens sont facilement jetés en prison.
Il y a eu des mesures de grâce, il y a eu des mesures d'amnistie, mais voilà, quelques années après, en fait, les prisons sont surpeuplées. Comment faire pour que, en fait, dans notre code où il est dit que la détention n'est que l'exception, ne devienne pas, en fait, finalement, la règle qui est aujourd'hui appliquée, parce que, voilà, on va très facilement en prison.
Pour marquer leur solidarité aux détenus de la MACA, le groupe musical Magic System et l'artiste Kadim leur ont offert un spectacle à l'occasion de de la visite du CICR. Kadine.
C'est simplement un message d'espoir à l'endroit des prisonniers pour leur dire qu'on ne les oublie pas. Qu'ils sachent qu'on ne les oublie pas et que ce à quoi les gens de l'extérieur ont droit, de temps en temps, chaque fois que nous pourrons, nous viendrons ici leur apporter, comme on dit dans la musique, la vibration.
La Côte d'Ivoire compte 34 prisons, des prisons en proie souvent à des mutineries liées à la précarité dans laquelle vivent les détenus. Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Et c'est aujourd'hui la journée Martin Luther King aux États-Unis. 51 ans après l'assassinat du célèbre leader du mouvement pour les droits civiques, l'Amérique a fait de grands progrès sur les questions raciales, mais de profondes divisions subsistent. Timothée Donangmaï s'est entretenu à ce sujet avec le professeur Souleyman Bachirdian de l'Université Columbia à New York.
C'est une situation véritablement contrastée parce qu'effectivement, il y a des manifestations de ce racisme contre lequel le docteur Martin Luther King s'est battu toute sa vie, à quoi il a consacré toute son énergie et toute sa vie. Mais par ailleurs, il ne faut pas ignorer effectivement des progrès qui ont été accomplis. La meilleure image d'ailleurs des progrès qui ont été accomplis, c'est probablement une photographie du Parlement actuel, de la Chambre des représentants. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu de Chambre des représentants aussi diverse. Alors, pour vous manifester le caractère contrasté de la situation, cette diversité, malheureusement, ne se manifeste que d'un côté. Ce sont les démocrates qui ont un maximum de femmes, qui ont les élus les plus divers, des Native Americans, des Noirs, évidemment, mais également deux femmes musulmanes. Dans la chambre précédente, il y avait un congressman musulman qui avait fait la une des journaux parce qu'il avait voulu prêter serment sur le Coran. Cette fois-ci, il y en a deux. Voilà donc une image, je crois, de l'Amérique qui correspond davantage à ce qui a été le rêve du docteur Martin Luther King.
Au plan politique, des progrès effectifs donc, mais au plan économique, il y a encore des efforts à faire.
Sur le plan économique, effectivement, il y a des efforts à faire parce que les inégalités n'ont jamais été aussi criantes. Et malheureusement, quand on parle d'inégalités, il faut bien se rendre compte que les classes défavorisées sont également les classes les plus brunes, on va dire. C'est-à-dire, ce sont des classes qui pour la plupart d'ailleurs, appartiennent à ces minorités raciales.
Le docteur Martin Luther King s'était rendu à l'indépendance du Ghana en mars 1957. Quelle est la portée de son message aujourd'hui pour l'Afrique?
Alors, il faut effectivement rappeler cela, qu'en 1957, le docteur Martin Luther King s'était rendu au Ghana. Et donc, il est nécessaire de le rappeler pour rappeler que de part et d'autre de l'Atlantique, il y a un combat commun qui est mené, qui est un combat pour simplement l'affirmation de l'humanité et l'affirmation de l'égalité. Cela est important pour l'Afrique de se rendre compte que le combat qui est mené partout pour la liberté, pour l'émancipation et pour l'égalité est un combat qui intéresse également les Africains. Donc la leçon de Martin Luther King est une leçon universelle qui est une leçon également pour les Africains aujourd'hui.
C'était le professeur Souleyman Bachirdian de l'Université Columbia à New York.
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, dans Universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur votre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-92-40. Je répète, 225-58-92-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Ainsi Ainsi va le monde d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe, à la régie, Joselle Morissin, Zaina Abdelrahman, Raïssa à la présentation. Vous pouvez retrouver toute notre actualité sur Facebook et sur notre site internet voafrique.com. Pour plus d'infos, excellente suite de programme. Écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore, sans oublier sur Onde Courte, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Bienvenue à bord. Les passagers de